Aujourd'hui, nous recevons donc René Koering-Julin. Vous êtes né en 1944 en Algérie. Vous êtes docteur en droit, agrégé de droit privé et de sciences criminelles. Aujourd'hui, vous êtes conseiller à la Cour de cassation. Vous êtes donc une spécialiste du droit pénal international et droit pénal des droits de l'homme. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications, articles et fascicules, commentaires d'articles de droit, et vous avez contribué à de nombreux ouvrages collectifs, comme par exemple « Raisonner la raison d'État » aux éditions PLUF, publiées en 1989, ainsi qu'en collaboration avec André Huet, l'ouvrage « Droit pénal international », publié aux éditions PLUF en 1994, et prochainement, en 2001, paraîtra une édition mise à jour. Je vous laisse maintenant la parole.
Mesdames, Messieurs, je commencerai mon propos en vous citant deux dates. 1919 d'abord, c'est la date du traité de Versailles qui prévoit la mise en accusation du responsable du déclenchement des hostilités, à savoir l'ex-empereur d'Allemagne, Guillaume II, devant un tribunal international, dit le tribunal interallié. Il est accusé, je cite, « d'offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités ». Rassurez-vous, je plaisante évidemment, j'ironise, il s'est réfugié aux Pays-Bas, pays neutre, et il ne sera jamais extradé. Seconde date, 1998. C'est celle de la Convention de Rome, non encore en vigueur, instaurant à l'échelle universelle une cour pénale internationale permanente, compétente pour juger les auteurs et complices de génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre notamment. On y reviendra plus tard. Le pas accompli entre les deux dates, considérable, même s'il a été grandement facilité par l'étape intermédiaire de Nuremberg en 1945, me paraît exemplaire du phénomène de l'internationalisation du droit pénal. Néanmoins, il serait réducteur et même trompeur de cantonner l'étude du phénomène à ce droit spectaculaire qui est celui d'un juge d'exception pour une criminalité d'exception. Ce serait oublier les manifestations moins voyantes et pourtant très proches que sont les combats menés au jour le jour par les autorités étatiques pour lutter contre le tout venant de la criminalité internationale. Or, qu'il s'agisse par exemple d'entraide policière, d'entraide judiciaire, de compétences pour juger des infractions commises hors de nos frontières, on assiste également à des mutations très importantes, même s'il y a encore beaucoup à faire. Mais s'il y a beaucoup à faire pour améliorer les instruments de l'internationalisation, que dire alors des sources auxquelles puise l'internationalisation ? Leur nombre et leur complexité sont telles qu'au lieu d'apporter une aide aux différents acteurs de la scène pénale internationale, trop souvent, elles conduisent à paralyser leur action. Vous l'avez compris, je commencerai donc par étudier de manière très simple les sources du phénomène avant d'examiner quelques-uns de ces instruments. Deux observations liminaires. Première observation, la matière est si riche, vous vous en doutez, et parfois si technique, que je serai forcément simplificatrice et jamais exhaustive. Deuxième observation, c'est essentiellement d'un point de vue français, évidemment, que je me placerai. Donc, premier point, les sources de l'internationalisation du droit pénal. Elles sont disparates, éclatées, elles sont même enchevêtrées, souvent redondantes. Et ce qu'il s'agisse de leur forme, de leur objet, ce sur quoi elles portent, et de leur portée. La forme pour commencer. On trouve d'abord, du point de vue formel et sans paradoxe aucun, les sources nationales de l'internationalisation du droit pénal. Propres à chaque État, elles s'expriment dans ses lois ou ses textes réglementaires, sa jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions des juridictions de l'État, et ses principes généraux du droit. Pour prendre l'exemple français, on trouve la loi, parfois codifiée, parfois non codifiée. Loi codifiée, je pense aux règles sur la compétence répressive des tribunaux français pour les infractions commises à l'étranger, que l'on trouve depuis 1992 dans le Code pénal, en majeure partie. Non codifiée, je pense à la grande loi de 1927 sur l'extradition, qui complète les traités sur les points qu'ils n'ont pas réglementés. Je pense encore à un texte très connu, l'ordonnance de 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France. cette ordonnance à valeur de loi d'ailleurs. La jurisprudence, pour sa part, joue un grand rôle en la matière, qu'il s'agisse du Conseil d'État, ordre administratif, ou de la Cour de cassation, ordre judiciaire. Toutes deux, à leur manière, procèdent à une interprétation parfois audacieuse de certains textes, et elles ont conduit à des évolutions considérables de certaines branches du droit international. Mais il arrive également à la jurisprudence de se montrer frileuse, peu ouverte au phénomène. C'est le cas lorsqu'aujourd'hui encore, les tribunaux français se refusent à exécuter en France un jugement pénal étranger, sauf évidemment convention l'autorisant. Et puis on trouve aussi quelques principes généraux du droit qui viennent combler des vides textuels. Un exemple intéressant, il y a 3 semaines, le Conseil d'État a fait application d'un principe général du droit extraditionnel, selon lequel, je cite, « l'extradition d'un étranger peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. » En conséquence, le Conseil d'État a annulé le décret d'extradition d'un individu vers la Russie au motif que l'extradé étant atteint d'une grave affection diabétique, aux multiples complications organiques. Sa sécurité médicale ne pourrait pas être assurée en Russie, vu les conditions de détention lamentables dans les établissements, le mot lamentable est de moi évidemment, dans les établissements pénitentiaires russes. Vous le voyez, il faut dire oui à l'internationalisation du droit pénal, mais évidemment pas au mépris des droits individuels. À côté des sources nationales, on trouve bien sûr, au premier chef, les sources internationales de l'internationalisation du droit pénal. En font partie quelques rares principes généraux, mais cette fois du droit international public, tel, je cite le plus connu, le principe de la souveraineté des États, qui interdit à toute autorité d'un État d'effectuer des actes de contrainte sur le territoire d'un autre État. En font aussi partie les actes d'organisations internationales tels que l'ONU au plan universel ou l'Union européenne au plan régional. Ce sont ainsi, on y reviendra, des résolutions de l'ONU qui ont institué 2 tribunaux internationaux, aujourd'hui fameux, habilités à juger les criminels de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. Ce sont surtout les innombrables actes que l'on doit à la Commission de Bruxelles, Union européenne. Règlements, directives, positions communes, décisions cadres, décisions communes, relevant de ce qu'on appelle par commodité, mais le mot n'est plus actuel de nos jours, le 3e pilier, l'expression est empruntée au traité de Maastricht de 92, mais elle a été réformée par le traité d'Amsterdam en 97, et aujourd'hui on doit dire « dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale ». Mais par commodité, on continue à dire le 3e pilier. On trouve enfin, et ce sont de loin les plus importants du point de vue formel, les innombrables traités ou conventions, l'expression est synonyme, conclus à 2 ou à plusieurs, et qui sont toujours contraignants pour les États, faites attention à cela, non pas lorsqu'ils sont signés, mais une fois qu'ils ont été ratifiés. Ces différentes sources, au premier rang desquelles les conventions, brillent également par l'infinie diversité de leur objet, de moins en moins de domaines échappant à leur emprise. L'objet. Si l'on veut essayer de mettre de l'ordre dans cet objet multiforme, on peut distinguer les sources et notamment les conventions qui intéressent plutôt le droit pénal de celles qui visent plutôt la procédure pénale, étant entendu que pour brouiller les pistes, on trouve évidemment des conventions qui traitent à la fois de droit pénal et de procédure pénale. Par droit pénal, je commence par lui, notamment spécial, comme on dit dans notre jargon. Il faut entendre les conventions qui visent à lutter contre une forme particulière de délinquance rendue particulièrement redoutable par l'internationalisation des échanges humains et commerciaux. Elles sont très nombreuses, elles sont excessivement nombreuses, et elles sont baptisées par un auteur, en raison justement de leur diversité, convention patchwork. Le mot est péjoratif à dessein, puisqu'il pourrait y avoir autant de conventions qu'il y a d'infractions, et elle présente l'inconvénient majeur de se désintéresser en général des infractions connexes qui, lors d'un procès, vont être obligées de puiser à d'autres sources que l'infraction mère. En me cantonnant à quelques conventions en vigueur ou en passe de lettres en France, je les classerai de la manière suivante. Certaines protègent la vie et l'intégrité physique de la personne. C'est le cas, c'est la plus célèbre, de la Convention New York de 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont le Conseil d'État, toujours lui, a fait une application exemplaire en 1999, en interdisant sur son fondement l'extradition vers la Turquie d'un individu qui y avait déjà été torturé et craignait de l'être à nouveau. Je vous rappelle aussi que c'est sur cette même base conventionnelle que la Chambre des Lords a estimé que la demande espagnole d'extradition de M. Pinochet pouvait être accordée, mais à la condition que lui soit reproché les seuls actes de torture postérieurs au 29 septembre 1988, date d'entrée en vigueur de la Convention de New York sur le territoire du Royaume-Uni. D'autres traités protègent non plus la vie et l'intégrité physique, mais la dignité de l'être humain. Je cite pêle-mêle, Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et la prostitution d'autrui, Convention de 1923 contre le trafic des publications obscènes, pour aller vite, Convention de 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. D'autres encore intéressent la sécurité des personnes, telles les conventions de Strasbourg, 1977, et de New York, contre le terrorisme, les conventions contre la piraterie aérienne, l'AE, Montréal, contre la piraterie maritime, Rome, 1988, enfin la convention de Vienne et New York de 1980, prohibant l'obtention et l'usage illicite de matière nucléaire. La santé n'est pas oubliée, comme l'exprime une très grande convention, la fameuse convention de Vienne de 1988, contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Mais si la sauvegarde de l'être humain est au premier rang des préoccupations des États, les biens ne sont pas oubliés, je pense à la monnaie, avec la convention de Genève de 1929 contre le faux-monnayage, et plus généralement les transactions commerciales, avec la Convention de 1990 du Conseil de l'Europe contre le blanchiment des produits d'une infraction et celle visant à moraliser la matière des transactions internationales et qui incrimine l'infraction à la mode, si j'ose dire, y compris la corruption, y compris celle des fonctionnaires étrangers. Convention de Paris signée dans le cadre de l'OCDE en 1997, on vient de la ratifier en septembre dernier. Convention de Bruxelles dans le cadre de l'Union européenne de 1997, et puis, vous voyez comme c'est redondant, sur le même thème, une convention du Conseil de l'Europe de 1999, mais qui pour l'instant n'a connu aucun succès. Enfin, sans prétendre bien sûr à l'exhaustivité, je ne peux passer pour silence les traités qui demandent aux États de pénaliser les atteintes à l'environnement. Convention Marpol de 1973, protégeant la mer contre les rejets de substances nuisibles, Convention de Paris de 1992 protégeant l'Atlantique du Nord-Est contre les incinérations et les immersions de déchets, Convention de Bâle de 1989 sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux, ou encore, et je m'arrêterai là, Convention de Washington de 1973 protégeant la faune et la flore sauvage contre les abus d'un commerce lui aussi sauvage. Vous le voyez, le foisonnement des textes internationaux à visée incriminatrice, de droit pénal spécial, comme on dit, est considérable. Il faut lui ajouter la liste de ceux qui s'intéressent à la procédure pénale. Le plus souvent, il va s'agir d'entraide judiciaire, d'entraide entre juges. Et cette entraide judiciaire a essentiellement deux visages, que l'on peut d'ailleurs trouver réunis au sein du même texte. La Convention vise parfois ce qu'on appelle l'entraide mineure, c'est-à-dire l'entraide entre juges hors extradition. La plus connue des conventions multilatérales, la plus utilisée, elle est utilisée tous les jours en France, c'est la Convention du Conseil de l'Europe de 1959, qui traite de commissions rogatoires internationales, de communication de pièces à conviction, de transfert de témoins, d'experts, etc. Mais n'oubliez pas que sur cette convention multilatérale du Conseil de l'Europe, vient se greffer des conventions bilatérales ou d'autres conventions multilatérales qui parfois sont en concurrence avec elles, parfois sont en conflit carrément avec elles, et rien n'est prévu pour résoudre, pour sortir des crises, si j'ose dire, posées par ces concurrences ou ces conflits. Parfois, le traité va viser ce qu'on appelle l'entraide majeure, L'entraide majeure désigne tout simplement l'extradition. Et parmi les conventions multilatérales les plus connues, la plus utilisée, c'est celle à nouveau du Conseil de l'Europe de 1957, qui a connu un très grand succès. Elle lie 38 États du Conseil de l'Europe sur 41 et elle lie aussi Israël. Beaucoup plus récemment, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, on a développé l'entraide policière. Mais là, spécialement au sein de l'Union européenne, grâce à une convention dont vous avez tous entendu parler, c'est la convention de Schengen de 1990, entrée en vigueur le 26 mars 1995, qui a pour objet de supprimer graduellement les frontières donc, entre les partenaires de l'Union européenne, mais qui, comme pour mêler les cartes à son tour d'une éventuelle classification, contient des dispositions relatives à l'entraide judiciaire mineure, à l'extradition, à la répression des activités illicites en matière de stupéfiants, au trafic d'armes, de munitions, etc. Des formes diverses, un objet varié, venons-en maintenant à la portée de ces sources, elles aussi, marquées au sceau de l'extrême diversité. Qu'il s'agisse de leur portée rationnelle aussi, c'est-à-dire spatiale, géographique, ou de leur portée, comme on dit en droit, rationnée matérielle, en raison de la matière, c'est-à-dire substantielle. Les conventions précitées, source numéro un de l'internationalisation, donc les conventions, confirment l'impression de désordre, voire d'incohérence, qui se dégage de ce droit pénal de plus en plus international. Je commence par l'espace. Les régions dessinées par les traités ratifiés sont très nombreuses. D'abord, parce que sont nombreuses également les institutions au sein desquelles les États expriment leur volonté de répression internationale. C'est l'ONU, par exemple, avec ses 189 membres. C'est le Conseil de l'Europe, avec ses 41 membres. C'est l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, avec ses 30 États. Et c'est bien sûr la plus connue, l'Union européenne, avec ses 15 membres, en attendant 21, voire 28 membres. Mais ce sont bien sûr également des relations privilégiées instaurées par certains États limitrophes ou voisins, comme les États d'Amérique du Nord, les États d'Afrique de l'Ouest, le Benelux, la Scandinavie, etc. Or, cet éclatement institutionnel va se doubler d'un éclatement que je qualifierais de fonctionnel, aux conséquences bien pires encore. En effet, le hasard des ratifications ou des non-ratifications d'accords pourtant signés, et dont on s'attendrait donc à ce qu'ils soient ratifiés, va donner aux sources de cette internationalisation du droit pénal des configurations territoriales qui défient l'imagination la plus fertile. Deux exemples, l'un emprunté au Conseil de l'Europe, l'autre à l'Europe des 15. Au sein du Conseil de l'Europe, d'abord, donc, l'une des institutions qui a le plus œuvré pour lutter au plan international contre la délinquance internationale, la géographie de la collaboration est variée, comme l'illustrent deux conventions. Parfois, l'espace géographique dessiné va être immense. C'est le cas de la Convention de 1983 sur le transfèrement d'un condamné sur le territoire dont il est ressortissant et où il a sa famille, donc on pensera qu'il sera mieux resocialisé. Cette convention lie 38 États, vous voyez, c'est un grand succès, elle lie 38 États parmi les 41 du Conseil de l'Europe, mais elle lie aussi de manière tout à fait inattendue les Bahamas, le Canada, le Chili, le Costa Rica, les États-Unis, Panama, Tonga et Trinité-et-Tobago. Parfois, au contraire, l'espace dessiné est tout petit, car la convention est un échec. C'est le cas de la Convention pour la répression des infractions routières de 1964, qui ne lie que 5 États, Chypre, le Danemark, la France, la Roumanie et la Suède. Et ces États n'ayant pas de lien particulièrement développé, ni en matière commerciale, ni en matière touristique, il n'y a pratiquement jamais d'application de cette Convention. Second exemple, encore plus parlant, parce qu'emprunté à l'Europe qui est la plus familière qui soit, celle des 15, et dont on s'attendrait à ce qu'elle dessine un espace pénal unitaire. Eh bien, pas du tout. En fait, si vous me passez la comparaison, un petit peu comme pour l'euro, on assiste mutatis mutandis à l'émergence d'une Europe en quelque sorte à deux vitesses. Ainsi, la Convention de Schengen de 1990, dont on s'attendrait à ce qu'elle soit ratifiée par les 15 partenaires européens, car ils ont tout de même des relations de confiance les uns avec les autres, n'a été ratifiée que par 13 États sur 15, le Royaume-Uni, toujours lui, qui fait toujours bande à part, et l'Irlande, donc, n'ayant pas ratifié la Convention de Schengen. J'en viens maintenant à la portée non plus géographique, mais substantielle, rationnée, matérielle, des engagements contractés, qui va encore une fois aggraver le tableau. C'est d'abord par le biais des réserves à tel ou tel article d'un traité que les États parties transforment la portée, le champ d'application du traité qu'ils ont pourtant ratifié. En effet, comme leur nom l'indique, les réserves apportées à un traité lors de sa signature ou lors de sa ratification permettent à l'État qui les émet de restreindre la portée de son engagement. Or, les États, vous vous en doutez, ne se privent guère d'émettre des réserves ou de faire des déclarations interprétatives en arguant des spécificités de leur système juridique. Et surtout, ils ne se hâtent pas de les retirer une fois qu'ils les ont émises. Et parfois, des années après, un État continue à émettre sa réserve. Évidemment, vous vous en doutez, ça pose des problèmes complexes dans la mise en application de ces conventions. Deux exemples. Premier exemple, qui fit pas mal de bruit à l'époque, vous vous en souvenez sans doute, c'est la dramatique affaire Resala. En fuite au Portugal, le jeune homme a fait l'objet d'une demande d'extradition de la part de la France, donc France est à Portugal est à requis. Donc demande d'extradition de la part de la France, lieu de ses crimes supposés, sur la base de la Convention européenne d'extradition de 1957, Conseil de l'Europe. Le jeune homme encourait la réclusion criminelle à perpétuité en France pour assassinat, c'est-à-dire pour meurtre aggravé par la préméditation. Or, dans une réserve émise à la Convention, le Portugal, qui ne connaît comme peine maximale que la réclusion de 30 ans et pas perpétuité, a énoncé qu'il n'extradait pas vers des pays lorsque l'extradé encourait la réclusion criminelle à perpétuité. Or, vous le savez, le suicide de Resala a mis un terme à la querelle juridique qui opposait le Portugal et la France. Second exemple, emprunté non plus au Conseil de l'Europe mais à Schengen, la Convention donc de 90 autorise entre autres la poursuite transfrontalière d'un suspect et parfois son interpellation sur le territoire d'un État voisin par les agents d'un autre État. Mais la France, par une déclaration ad hoc, réserve aux seuls agents français, des OPJ notamment, la possibilité d'interpeller un suspect en France. L'Allemagne, au contraire, autorise les agents français à interpeller des gens en fuite en Allemagne. Eh bien, sachez qu'au début de l'application de la Convention de Schengen dans les relations franco-allemandes, des agents allemands, se croyant de bonne foi investis des mêmes pouvoirs en France que leurs homologues français sur le territoire allemand, ont procédé à des interpellations irrégulières qui ont conduit à des placements en garde à vue qui ont dû être annulés par la suite par les chambres d'accusation. Mais il n'y a pas que les réserves qui modifient le champ d'application substantiel des traités et conventions. Fréquemment, ce champ se trouve déformé et donc complexifié, soit par addition, soit par soustraction, par la signature d'accords bilatéraux ou multilatéraux greffés sur le texte préexistant, sur la Convention Homère, si vous voulez, afin de l'amodier dans les relations entre tel ou tel État, voire tels ou tels États. Deux exemples. Je vous ai dit il y a quelques instants que la Convention de Schengen ne liait que 13 États parmi les 15 de l'Union européenne. Ce serait trop simple. Le Royaume-Uni a demandé et obtenu en 1999, de la part du Conseil de l'Union européenne, je cite, « de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen ». Pas tout, mais seulement certaines dispositions. À l'inverse, deux États non membres de l'Union européenne, à savoir l'Islande et la Norvège, ont passé un accord séparé avec l'Union européenne afin de participer à la mise en œuvre, à l'application et au développement, je cite, de l'acquis de Schengen. Deuxième exemple, mais je pourrais vous en citer à l'infini, la Convention européenne d'extradition de 1957, déjà en partie modifiée par Schengen dans le cadre des rapports entre les 13 États, le sera également un jour prochain, mais dans les rapports cette fois entre les 15, par une convention signée à Dublin en 1996 et qui est destinée à faciliter l'extradition au sein de l'Union européenne en écartant notamment la clause de non-extradition des nationaux. Nous venons de constater l'extrême complexité des sources auxquelles puise le phénomène d'internationalisation du droit pénal. J'en viens maintenant aux instruments dont se sert l'internationalisation du droit pénal. Dans une vision simple, pour ne pas dire simpliste de la question, on peut dire que ces instruments ont en commun de favoriser la collaboration des États dans la lutte contre le crime, afin que la répression ne se heurte pas à des frontières que les délinquants ont fait tomber depuis belle lurette. Dans une approche tout de même un peu plus fine, il me semble qu'on peut déceler derrière cette finalité commune d'évidence des forces, des mouvements qui me semblent être triples. L'entraide au sens technique du terme, au sens juridique du terme, l'entraide entre États, me paraît reposer sur l'idée de réciprocité, d'échange. Je t'aide, tu m'aides. Au contraire, les règles de compétence internationale pour juger les infractions commises à l'étranger obéissent, à mon sens, à une force assurément centripète. On attire à soi des faits commis à l'étranger. Et à l'inverse, l'avènement récent, c'est ce qu'il y a vraiment de plus neuf en la matière, l'avènement récent de juridiction pénale internationale répond plutôt à une force centrifuge à laquelle la sacro-sainte souveraineté des États ne nous avait guère habitués. Commençons par jeter un œil sur la réciprocité de l'entraide stricto sensu. C'est essentiellement avant et pendant le procès que se manifeste l'entraide des États, qui depuis quelques années d'ailleurs, au grand dam des juges, est beaucoup plus avancée en matière policière qu'en matière judiciaire. Commençons donc par l'entraide policière. Contrairement à une idée tenace, répandue que vous avez peut-être, si vous n'avez jamais fait d'études juridiques, il n'existe pas de police internationale dont les membres seraient habilités à chercher les preuves d'un crime à travers le monde et à en arrêter les auteurs présumés. En revanche, des conventions organisent une collaboration des polices nationales afin, pour résumer, d'une part d'échanger des informations, d'autre part de rechercher des preuves, et enfin de prendre des mesures contraignantes. Pardon. L'échange d'informations, de renseignements, évoque à l'échelle mondiale, évidemment, Interpol. Créée en 1923, l'Organisation internationale de police criminelle, c'est son nom officiel, hein, l'OIPC, basée à Lyon, ou Interpol, n'est que la réunion de services nationaux de police de 178 États. Elle fonctionne grâce à des bureaux centraux nationaux. En France, le BCN se trouve à la Direction centrale de la police judiciaire à Paris, et ces BCN s'échangent réciproquement des renseignements concernant des personnes, des suspects, des individus qui font l'objet d'un mandat d'arrêt en vue d'extradition, des individus en fuite qui ont été condamnés mais qui ont échappé à l'exécution de la peine, ou encore des renseignements concernant des biens illicites, des biens volés, des biens détournés, des armes, des œuvres d'art, des voitures, des médicaments périmés, on peut tout imaginer. Interpol, vous le savez sans doute, joue un rôle considérable dans la localisation des individus recherchés en vue d'extradition. Au plan régional, cette fois-ci, et non plus universel, c'est l'Europe des 15 qui a montré la voie. A ainsi été signée le 26 juillet 1995 une convention portant création d'un office européen de police, dit Europol, qui dispose d'un système informatisé de données et vise à améliorer la coopération des États dans la lutte contre le crime organisé, à savoir les grands trafics, êtres humains, monnaie, stupéfiants, etc., et les fraudes aux intérêts communautaires. Une décision cadre toute récente du Conseil de l'Union européenne vient de confier le blanchiment, l'infraction de blanchiment à Europol et vient en outre d'allonger la liste des infractions donnant lieu à blanchiment. De plus, entre les États partis cette fois-ci à la Convention de Schengen à l'intérieur de l'Union européenne, il existe un autre système d'information qu'on appelle le SIS, le système d'information Schengen, basé à Strasbourg, et dont la portée est plus large que celle d'Europol, puisqu'elle excède le champ proprement pénal pour couvrir, par exemple, le champ de la circulation des personnes en général. Illustration de l'efficacité du SIS, tout signalement d'une personne dans le cadre du SIS vaut demande d'arrestation provisoire au sens de la Convention européenne d'extradition de 1957. La recherche de preuves maintenant à l'étranger, pour sa part, a pour terrain d'élection à nouveau la Convention de Schengen, et notamment son article 40, qui permet à tout agent ou tout officier de police judiciaire d'un État parti qui a commencé à observer, quand on dit observer, ça veut dire faire une filature, qui a commencé à observer un suspect de continuer son observation sur le territoire d'un autre État, avec bien sûr l'autorisation des autorités du dit État. Néanmoins, l'autorisation devient inutile lorsqu'il y a urgence et que l'infraction est grave, suite une liste d'infractions énumérées par Schengen, le meurtre, le viol, la prise d'otage, les trafics divers. Cependant, dans le cadre de cet article 40, la faculté d'interpeller ou d'arrêter un suspect n'appartient qu'aux policiers locaux. Enfin, les mesures contraignantes. Les mesures de contrainte sont mises en œuvre le plus souvent dans le cadre de la Convention de Schengen également. C'est cette fois-ci son article 41 qui autorise les policiers d'un État Schengen à poursuivre sur le territoire d'un État limitrophe, au-delà de sa frontière terrestre, une personne qui a été prise en flagrant délit, comme on dit en droit pénal, d'une des infractions précitées à l'instant, ou bien d'une personne qui s'est évadée alors qu'elle était emprisonnée. Mais les conditions sont très strictes. Chaque État prévoit par une déclaration ad hoc la limite territoriale de ce qu'on appelle le droit de suite. La France donne ainsi aux policiers espagnols, italiens et luxembourgeois un rayon d'action de 10 km seulement sur notre territoire, alors que les agents allemands et belges n'ont, eux, aucune limite pour agir. Mais je vous le rappelle, poursuivre ne signifie pas interpeller. L'interpellation n'est permise en France que pour des agents ou OPJ français. J'en viens à l'entraide judiciaire. Face aux progrès réalisés ces dernières années par l'entraide policière, on est frappé par l'immobilisme, pour ne pas dire par l'archaïsme, de l'entraide judiciaire. Le mécanisme d'entraide le plus connu est encore une fois l'extradition. Processus ancien, lourd, formaliste, la voie diplomatique est la règle, par lequel un État demande à un autre État de lui livrer un individu, soit pour le juger, soit pour lui faire exécuter sa peine s'il a déjà été jugé qu'il s'est enfui. L'extradition obéit à des conditions précises, relatives notamment à la gravité des faits, car on n'extrade pas pour des infractions minimes, bien sûr, ou alors relatives à la gravité des peines prononcées. Elle achoppe sur un certain nombre d'obstacles bien connus. L'un des plus connus est l'obstacle de la double incrimination. On n'extrade jamais pour une infraction qu'on ne connaît pas dans son système juridique, ou encore pour certains États dont la France, et plus généralement les États de tradition continentale, romano-germanique, la non-extradition des nationaux. Enfin, depuis une époque relativement récente, au grand désespoir des magistrats, mais à la grande joie des avocats, l'étranger réclamé à la France dispose de recours, ce qui allonge encore le processus, tant dans la phase judiciaire préalable de l'extradition que dans la phase administrative décisoire. Quant à l'entraide judiciaire mineure, qu'illustre au premier chef ce qu'on appelle la Commission rogatoire internationale, la CRI. Elle est, elle aussi, d'une lourdeur absolument inouïe. Une CRI est une demande adressée par l'autorité judiciaire d'un État à l'autorité judiciaire d'un autre État, afin qu'elle accomplisse pour son compte et en son nom une mesure d'instruction quelconque. Une perquisition est saisie, un transport sur les lieux, une audition de témoins, etc. Or, sauf urgence, la voie normale prévue par la Convention de 59 que je vous ai citée tout à l'heure passe par les ministères de la justice et non pas par les autorités judiciaires elles-mêmes. Comment s'étonner dans ces conditions que l'entraide s'avère parfois d'une totale inefficacité ? En effet, tandis qu'un établissement financier blanchisseur, qu'il soit français, suisse ou monégasque, communiquera avec sa succursale à l'autre bout du monde, à la vitesse du câble, une CRI mettra des mois, voire des années à revenir en France, ou parfois même ne rentrera jamais parce que l'État requis refuse de déférer à la demande donc d'entraide. En conséquence, depuis quelques années, des voix d'ailleurs de plus en plus nombreuses se font entendre en faveur d'un assouplissement de l'entraide judiciaire mineure. Je pense notamment, tout le monde en a entendu parler, au fameux appel de Genève, lancé en 1996 par des magistrats belges, espagnols, français, italiens et suisses, qui clamaient publiquement à leurs gouvernements respectifs leur impuissance face aux crimes, à la criminalité organisée, comme on dit, internationale. Dans un article du Monde du 20 octobre dernier, intitulé « Europe du droit ou Europe du crime ?», point d'interrogation, 11 juges, dont justement ceux de l'appel de Genève, viennent de réitérer leur supplique en direction des ministères de la Justice de l'Union européenne. À l'heure de l'élargissement de l'Europe, donc bientôt 21, ils réclament en urgence la création d'un véritable espace judiciaire européen assorti d'un parquet européen indépendant sur le modèle de celui proposé par le corpus juris dont Mme Delmas-Sarty a dû vous parler hier soir pour la défense des intérêts financiers de l'Union européenne, afin que l'Europe de demain ne soit pas l'Europe du crime organisé. Pour l'heure, et certains le regrettent, notamment ces magistrats, les 15 ont choisi une autre voie. Le sommet finlandais de 1999 a accouché d'une nouvelle institution bruxelloise, une de plus, qui s'intitule Eurojust, qui regroupera 15 magistrats, procureurs ou officiers de police, mais qui ne seront pas indépendants, ils relèveront de leur gouvernement. Donc 15 magistrats des 15 États européens, chargés de coordonner les enquêtes et les poursuites contre toujours la criminalité organisée, les grands trafics, le terrorisme, le blanchiment de l'argent sale, les fraudes aux intérêts communautaires. Si tout va bien, Eurojust devrait exister officiellement fin 2001, et en attendant, c'est une unité provisoire, expérimentale, qui fonctionne. J'en viens maintenant à la force centripète, cette fois-ci, des règles de compétence internationale pour juger. Autant il paraît normal que les tribunaux d'un État soient compétents pour juger toutes les infractions commises par quiconque sur son territoire, c'est ce qu'on appelle le principe de la territorialité, qui est l'expression de la souveraineté d'un État, autant il peut paraître plus surprenant que ces mêmes tribunaux s'intéressent à des infractions commises à l'étranger et qui donc, par hypothèse, relèvent de la compétence territoriale d'un autre État. Et pourtant, tous les jours, des juges, à commencer par des juges français, attirent à eux la connaissance de ce type de fait. Bien plus, notez-le au passage, ils appliquent toujours la loi française et non une loi étrangère, car en droit pénal international, contrairement à ce qui se passe en droit international privé, c'est-à-dire droit international civil, commercial, social, etc., le juge répressif n'applique que la loi française. La force d'attraction exercée par le droit français sur des faits commis à l'étranger n'a fait que se renforcer au fil des années. Au départ, la France ne s'intéressait qu'à deux types d'actes commis à l'étranger. Ceux qui portaient atteinte aux intérêts supérieurs de l'État français, à sa sûreté par exemple, ou ceux qui avaient eu pour auteur et pour victime un Français à l'étranger. Et puis avec le temps, les hypothèses de compétence se sont multipliées de manière considérable, vous allez le voir. Aujourd'hui, en simplifiant, je simplifie beaucoup, On peut dire que les juges français soumettent à la loi pénale française les infractions suivantes. Premièrement, sur le fondement de ce qu'on appelle le système de la personnalité active, les crimes et les délits commis à l'étranger par un Français. Il y en a beaucoup quand même. À condition, pour les délits, qu'ils soient punis également par la loi étrangère. À nouveau, on retrouve l'exigence de la double incrimination. Une exception de taille, depuis 1998, c'est les délits sexuels, comme on dit couramment le tourisme sexuel, qui, dans un souci d'efficacité répressive compréhensible, n'ont plus besoin d'être incriminés par la loi de l'état de commission des faits. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, un homme a été jugé par la cour d'assises de Paris pour des faits de viol commis en Thaïlande sur une mineure de 15 ans. Eh bien, sachez, c'est ça la nouveauté, ça c'est pas une nouveauté, la nouveauté c'est la suivante, c'est que si ce monsieur en question avait commis un simple délit, c'est-à-dire non pas un viol qui suppose la pénétration sexuelle, mais une agression sexuelle ou des attouchements sexuels, il aurait aussi relevé de la compétence du tribunal correctionnel français, sans qu'on exige la double incrimination des faits en Thaïlande, évidemment elle n'existe pas, sans qu'on exige une plainte de la victime des faits, sans qu'on exige une dénonciation des faits par les autorités de Thaïlande. Donc c'est un progrès assez considérable. Deuxième type de compétence, la compétence dite personnelle passive, en fonction de la nationalité de la victime cette fois-ci. Tous les crimes et les délits commis sur une victime française à l'étranger relèvent de notre compétence, à condition pour les délits qu'ils soient punis d'emprisonnement, mais je vous rassure, dans le nouveau code pénal, pratiquement tous les délits sont punis d'emprisonnement. C'est sur la base de cette compétence personnelle passive, introduite en droit français en 1975, c'est assez récent, qu'un tortionnaire argentin, le capitaine Astiz, a été condamné par contumace, c'est-à-dire en son absence, par la cour d'assises de Paris en 1990, pour la séquestration avec torture de deux religieuses françaises. Néanmoins, notez-le, dans ces deux cas de figure, l'agent peut échapper à la répression en France s'il apporte la preuve qu'il a déjà été jugé à l'étranger. Troisièmement, principe de la réalité, déjà cité tout à l'heure, tous les crimes et délits commis à l'étranger contre les intérêts fondamentaux de l'État français ou, depuis une époque récente, contre les agents ou locaux diplomatiques et consulaires à l'étranger relèvent de notre compétence. Et puis, ça c'est du neuf, depuis quelques années, s'est développé, continue de se développer, le système à la mode dit de la compétence universelle, selon lequel un juge français peut juger, selon la loi française, un étranger qui a commis une infraction à l'étranger sur une victime étrangère, à une condition que cet étranger soit arrêté sur le territoire français. Évidemment, le rattachement à la France est ici si ténu, si accidentel, c'est le hasard d'un passage en France, que cette compétence exceptionnelle ne se conçoit que pour des infractions gravissimes. Mais cette liste d'infractions gravissimes ne cesse de s'allonger de convention en convention. Torture, terrorisme, piraterie aérienne et maritime, atteintes diverses en usant de matières nucléaires et tout récemment, depuis quelques semaines, la corruption. En revanche, bien que les conventions existent et soient en vigueur, le droit français ignore, du point de vue de la compétence universelle s'entend, des infractions aussi graves que le trafic de stupéfiants ou la prise d'otages. Quant aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre ou aux violations du droit humanitaire, elles ne sont prises en compte actuellement, du point de vue de la compétence universelle s'entend toujours, que par l'intermédiaire des résolutions de l'ONU sur l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. C'est un exemple intéressant de compétence universelle, c'est l'affaire qui en son temps a défrayé la chronique, l'affaire du MC Ruby, un bateau battant pavillon des Bahamas, composé d'un équipage russe, ukrainien et abkhaze, et qui avait embarqué à son bord, à son insu, lors d'une escale en Afrique, 9 clandestins ghanéens et camerounais. 8 de ces malheureux, après avoir été découverts, ont été séquestrés pendant 3 jours, avec un peu d'eau pour toute subsistance, avant d'être abattus l'un après l'autre au fusil, et leurs cadavres ont été jetés à la mer. Lors d'une escale au Havre, le seul rescapé est parvenu à s'échapper du bateau et il a dénoncé les faits à la police française. Eh bien, sachez que sur le fondement de la compétence universelle instituée par la Convention de New York contre la torture et les mauvais traitements, qualification, il faut bien le dire, un peu forcée tout de même dans cette espèce, les responsables de ces faits ont été renvoyés devant une cour d'assises française qui les a condamnés, d'ailleurs, à de lourdes peines. Et j'en arrive, pour terminer mon exposé, à ce qui est sans doute le phénomène le plus marquant de l'internationalisation contemporaine du droit pénal. C'est l'avènement de la juridiction internationale ou la force centrifuge de l'internationalisation du droit pénal. En effet, à l'exception des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo après la Deuxième Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, qui jugèrent donc les grands criminels de cette guerre, les efforts de création d'une juridiction pénale internationale permanente ont eu beaucoup de mal à aboutir. Et pourtant, notamment en 1950, mais les efforts avaient déjà commencé à l'époque de la SDN, de la Société des Nations, l'Assemblée générale de l'ONU a créé un comité spécial permanent, donc chargé d'imaginer le statut d'une cour criminelle, elle-même permanente, qui, au fil de projets sans cesse remis sur le métier, manifester les grandes hésitations des États. Fallait-il notamment cantonner la compétence de cette Cour aux violations du droit humanitaire, du droit des gens, si vous préférez, ou au contraire l'étendre à des crimes internationaux graves, tels que le terrorisme ou le trafic de stupéfiants? Autre question, fallait-il retenir la responsabilité des États ou fallait-il se contenter de la responsabilité des personnes? Fallait-il enfin établir au préalable un code des infractions dites internationales relevant de la compétence de cette Cour, ou bien cela était-il inutile? Donc les travaux n'avançaient pas, et puis tout a commencé à changer avec, hélas, la purification ethnique pratiquée en Bosnie-Herzégovine en 1991 et son cortège d'exactions que vous connaissez bien. Pour compenser en quelque sorte leur apathie, leur absence de réaction, les États ont décidé de juger, puisqu'ils avaient été incapables d'intervenir. Et comme il fallait faire vite, ce n'est pas un traité, notez-le, c'est très original, c'est une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 827, qui a créé à La Haye un tribunal ad hoc, comme on dit, une véritable juridiction d'exception, un tribunal international compétent pour juger les responsables présumés des violations graves du droit humanitaire international commises en ex-Yougoslavie depuis 1991. Notez-le, aucune date butoir n'ayant été fixée par le Conseil de sécurité, les exactions perpétrées au Kosovo, on l'oublie souvent, relèvent elles aussi de cette compétence. Mais certains souhaitent évidemment qu'un terme soit mis au fonctionnement de ce tribunal ad hoc, à commencer d'ailleurs, ce qui était surprenant, par M. Kostunica, le président de la Nouvelle République fédérale de Yougoslavie, qui, vous avez dû le lire dans la presse, a rassuré M. Milosevic. Milosevic a été inculpé par le tribunal de La Haye, mais le nouveau président lui a dit que s'il restait en Serbie, il n'avait rien à craindre. C'est quand même gênant. Et donc, il a vraiment ouvertement, publiquement manifesté sa méfiance à l'égard de ce tribunal. Techniquement, le tribunal opère également comme cour d'appel. Il y a évidemment un deuxième degré de juridiction. Il est composé de 11 juges nommés par l'Assemblée générale des Nations unies et d'un procureur nommé par le Conseil de sécurité qui joue un rôle essentiel puisqu'il instruit l'affaire et il exerce les poursuites. Ce tribunal est compétent donc pour connaître des infractions graves aux conventions de Genève de 1949, des violations des lois aux coutumes de la guerre, du génocide et des crimes contre l'humanité. Il a déjà condamné un certain nombre d'individus de premier ou de second rang, des Serbes ou des Croates, à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à perpétuité. Enfin, notez-le, grâce à une loi d'adaptation française du 2 janvier 1995, si le responsable présumé de ces actes est arrêté en France, compétence universelle, les tribunaux français pourront le juger. Néanmoins, cette compétence française doit s'effacer devant celle du tribunal international si celui-ci décide de connaître de l'affaire. Ce sont ensuite les atrocités perpétrées au Rwanda et dans certains États limitrophes qui ont conduit le Conseil de sécurité, toujours pour aller vite, à prendre sur le modèle de la précédente une résolution 955 visant à instituer un tribunal pénal international, à nouveau une juridiction ad hoc, temporaire, installée à Arusha, en Tanzanie, et dont l'organisation, la compétence personnelle et la compétence matérielle, ainsi que le règlement de procédure, sont très proches de ceux fixés pour le tribunal de La Haye. Simplement, comme il s'agit ici d'un conflit civil interethnique et non pas d'une guerre au sens du droit international public, les violations des lois et coutumes de guerre sont exclues de la compétence du tribunal. De plus, contrairement à ce que je vous ai dit pour La Haye, la compétence rationnée temporiste du tribunal est strictement limitée, ne relève de sa compétence que les faits qui ont été commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, un point c'est tout. Une loi du 22 mai 1996, sur le modèle de celle de 1995, organise à son tour la compétence universelle subsidiaire des juridictions françaises, si on arrête en France donc une personne suspecte d'avoir commis des exactions de ce genre, ainsi que la collaboration des autorités françaises avec le tribunal. À titre d'information, le Premier ministre du Rwanda, en exercice en 1994, vient de voir sa peine d'emprisonnement à perpétuité, notamment pour génocide, confirmée au second degré, donc par la Cour d'appel, qui est à La Haye, elle, le 19 octobre dernier. Enfin, pour terminer, en attendant la création d'autres tribunaux ad hoc, on parle de la création d'un tribunal ad hoc pour la Sierra Leone, ces deux tribunaux ad hoc et temporaires que je viens de vous citer apparaissent comme le prélude expérimental, si on peut dire, à la création du tribunal permanent tant attendu depuis des années. De manière plus traditionnelle cette fois-ci, c'est un traité signé à Rome le 17 juillet 1998 qui a institué à La Haye la fameuse Cour pénale internationale. Ce traité, signé par 120 États, au rang desquels, hélas, il faut déplorer l'absence de la Chine, des États-Unis, de l'Inde et d'Israël, ce qui n'est pas rien, ce texte donc n'entrera en vigueur qu'après 60 ratifications ou adhésions. La France l'a ratifié le 9 juin 2000, après avoir modifié sa constitution. Je vous signale qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 21 États sur 60 qui l'ont ratifié. Donc, personnellement, je ne vois pas très bien, mais je peux me tromper, comment cette Cour pourrait entrer en vigueur avant peut-être 2004 ou 2005. Surtout que les États-Unis risquent de faire pression sur des États avec lesquels ils ont des relations privilégiées pour les détourner de toute envie de ratifier. La Cour est compétente, donc je résume, pour juger les auteurs et les complices, personnes physiques, pas les États, de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'un crime non encore défini, car les États ne sont pas entendus pour sa définition, le crime d'agression, en attendant l'extension de la compétence de la Cour à d'autres infractions, toujours les mêmes, le terrorisme, le trafic de stupéfiants, etc. La qualité de chef d'État ou de gouvernement n'exonère ni n'atténue la responsabilité de l'intéressé, tout comme celle de subordonné n'exonère pas non plus l'auteur des faits de son forfait. Cependant, parce qu'elle est le fruit d'un compromis très difficile, qui a été acquis donc difficilement, entre les partisans, je résume, du droit d'ingérence et les défenseurs de la souveraineté étatique, la compétence de la Cour connaît des limites qui sont très critiquables et très critiquées. Première limite, ça c'est une victoire des États-Unis alors même qu'ils n'ont pas signé, seules les infractions commises après l'entrée en vigueur de la Cour, donc dans quelques années, relèveront de sa compétence. De plus, tout État parti pourra décliner la compétence de la Cour en matière de crimes de guerre pendant un délai de 7 ans après l'entrée en vigueur de la Cour. C'est la France qui se trouve à l'origine de cette déclaration, et elle a évidemment fait la déclaration ad hoc appelée par le texte lors de la ratification, car elle craint que les militaires français n'aient à répondre de crimes de guerre dans leurs opérations de maintien de la paix à l'étranger. Deuxième réflexion, sujet à critique, la Cour n'est jamais compétente à l'égard d'un moins de 18 ans. Or, avoir retenu une majorité aussi haute paraît critiquable dans la mesure où les États seront encore plus enclins à faire les basses besognes par des jeunes, par des moins de 18 ans. Troisième observation, la Cour ne connaît en principe que des crimes réalisés sur le territoire d'un État parti, principe de la territorialité, ou par une personne ressortissante d'un État parti, personnalité active. On a retenu que c'est deux chefs de compétence. Enfin, quatrième critique, encore plus étonnant, la compétence de la Cour, dont on s'attendrait à ce qu'elle soit principale, et celle des États subsidiaires, n'est que subsidiaire par rapport à celle des États, sauf, il y a quand même une soupape de sûreté, s'il apparaît que l'État compétent n'a pas, je cite, la volonté ou la capacité de mener à bien les poursuites. Quand on sent vraiment qu'il va y avoir un déni de justice de la part de l'État concerné, alors là, la Cour de la Haye retrouvera sa compétence. Pour conclure en deux mots, je ferai un constat que d'autres ont fait avant moi et qui me paraît tout à fait vrai aujourd'hui. Pendant des années, le droit pénal international s'est trouvé, si on peut dire, à la traîne des droits pénaux nationaux et des procédures pénales nationales. En conséquence, tant bien que mal, et plutôt mal que bien, il lui fallait s'adapter à leurs contraintes et notamment aux particularismes nationaux. Et puis aujourd'hui, c'est très intéressant, les choses sont totalement inversées. L'internationalisation du droit pénal lato sensu, donc y compris la procédure pénale, à l'échelle régionale comme à l'échelle universelle, est un phénomène si irréversible qu'il devient le moteur de l'évolution des droits pénaux internes et des procédures pénales internes. Et c'est donc aux procédures internes et aux droits internes qu'il appartient de s'adapter aujourd'hui aux exigences de l'internationalisation. Cependant, attention, cette adaptation ne doit pas se faire à n'importe quel prix. En résumé, je pense que le principe de la légalité criminelle doit demeurer le garde-fou de la définition des infractions internationales. En outre, le principe communément appelé du procès équitable, au sens du pacte de l'ONU de 1966, ou au sens de la Convention européenne des droits de l'homme bien connue, doit toujours inspirer les mécanismes de la coopération répressive internationale, cette fois-ci du point de vue procédural. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci. Est-ce qu'il y a de la jurisprudence en ce qui concerne les délits pénaux dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, qui sont justement en général assez peu symétriquement définis dans les différents pays ?
Bien sûr qu'il y a de la jurisprudence, il y a du droit pénal, il y a des infractions donc, de droit pénal du travail, bon, il y a de la jurisprudence évidemment française, il y a une section de la chambre criminelle, il y a quatre sections de la chambre criminelle, il y en a une qui s'occupe notamment du pénal du travail, et c'est vrai pour tous les États, bien sûr qu'il y a de la jurisprudence. Je ne sais pas où est la personne qui a posé la question, il n'y a aucun problème là-dessus, il suffit de la chercher dans les revues, il y a une chronique à la revue de sciences criminelles, dont Madame Delmas Marty justement est la directrice, il y a une chronique droit pénal du travail. Vous pouvez lire la revue, les revues internationales, les revues trimestrielles de droit européen. Vous avez des chroniques de droit pénal du travail. Il n'y a aucun problème.
Merci. Monsieur au milieu, en bas.
Oui, bonjour. Je voulais vous poser la question suivante.
Tout en bas.
Est-ce que vous êtes pour l'application des lois pénales étrangères ? Et j'aimerais savoir exactement quelle est la raison, l'intérêt d'appliquer les lois pénales étrangères par les juges français, et notamment si vous êtes pour appliquer les lois pénales étrangères lorsque l'infraction n'est pas connue du droit français. Et si elle est connue, quel est l'intérêt finalement d'appliquer le droit pénal étranger, qu'il soit plus favorable ou défavorable?
Il y a des États, bon, je pense notamment à la Suisse. Imaginez un Suisse qui commet une infraction en France. C'est une fiction de dire que le Suisse de passage en France connaît la loi française. Hein? Or, le principe de la légalité criminelle suppose que l'on ne se voit imputer une infraction que si l'on connaissait le système juridique du pays où l'on a agi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, les Suisses ont la solution suivante. Il y a le choix entre l'application de la loi territoriale, donc française dans mon exemple, ou de la loi nationale de l'intéressé. Et en général, le choix se détermine en fonction de l'application de la loi la plus douce. c'est-à-dire l'application de la loi la plus favorable à la personne poursuivie. Ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. Certains considèrent qu'une personne, lorsqu'elle se déplace à l'étranger, si vous passez l'image un peu osée, emporte sa loi avec elle, car c'est quand même la loi qu'elle connaît le mieux. Vous partez à l'étranger, à l'autre bout du monde, et vous commettez une infraction dans le pays situé très loin de chez vous. C'est quand même un petit peu gênant, parfois, de relever des tribunaux de ce pays.
Micro.
Ah oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est évident. Ce que je vous dis là, il y a très peu d'auteurs qui le défendent, mais ça peut se défendre et ça se trouve en droit comparé. Donc, à mon sens, c'est tout à fait défendable. Mais c'est vrai que la plupart du temps, le droit pénal international solidarise, comme on dit, la compétence juridictionnelle et la compétence législative. En conséquence, un juge, que je disais tout à l'heure, un juge pénal, contrairement à un juge de droit privé, applique toujours sa loi pénale. Alors qu'en France, tous les jours, un juge civil applique la loi pénale nationale en matière de divorce, d'adoption d'enfants étrangers, etc. Divorce pour les couples mixtes, voilà ce que je peux vous répondre.
Merci beaucoup. Monsieur, juste derrière.
Une question d'histoire.
Oula.
Est-ce qu'un événement... Oui, c'est une histoire parce qu'elle est déjà terminée.
Oui.
Est-ce qu'un enlèvement comme celui d'Eichmann aurait pu avoir lieu? Un jugement comme il a eu lieu, est-ce qu'il aurait pu avoir lieu? Et internationalement, comment aurait-il pu être jugé? Enfin, voyez.
Vous voulez dire par la France ou par une cour pénale internationale?
Droit international, oui. Est-ce que le pays qui fait un enlèvement, on prend le cas de Milosevic, par exemple,
oui.
S'il se faisait enlever par ses propres concitoyens? Et amené dans le pays étranger, où il aurait donc, il rentrait dans le cadre de la poursuite internationale, si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce genre de cas?
C'est sûr que c'est un petit peu gênant du point de vue des principes du procès équitable. Alors, je vais répondre à votre question en deux temps. Vous avez raison, l'enlèvement international est quelque chose de banni par le droit international, ça c'est sûr. Cela dit, nous en France, sachez-le, nous fermons les yeux sur la manière dont les gens se retrouvent en France. Affaire Argout, affaire Barbie, la chambre criminelle répond, peu importe la manière dont la personne s'est retrouvée soumise à la compétence française, seul compte le fait que lorsqu'elle est jugée en France, elle a droit à un avocat et elle bénéficie de tous les droits du procès équitable, je résume. D'accord? Moi ça me choque comme conception, mais c'est celle de la jurisprudence criminelle française. Exporter cette jurisprudence devant une cour pénale internationale qui se veut tout de même un modèle pour tous les États du monde, ça me paraît un petit peu gênant. C'est pour ça que même si je le déplore, j'ai craint que Milosevic, s'il a la prudence de ne pas sortir des frontières de son État, vu les assurances que lui a données le nouveau président de la République fédérale de Yougoslavie, je pense qu'il ne risque pas grand-chose. En revanche, il a l'imprudence de sortir de ces territoires, là, c'est sûr qu'il risque, évidemment, mais en toute légalité, de se faire appréhender, puisqu'il y a un mandat d'arrêt contre lui.
Merci.
Mais je ne pense pas qu'on puisse imaginer ce genre de procédés, qui sont condamnables. Le plus grand criminel du monde a droit, même si ça choque certaines personnes, à un procès équitable.
Merci beaucoup, monsieur en bas à droite.
Est-ce que vous ne pensez pas, malgré vos conclusions optimistes, que finalement le droit international est inspiré surtout par les intérêts des États qui sont peut-être communs ou au contraire des intérêts divergents plutôt que des grands principes. Et j'ai été étonné aussi que vous ayez cité la Chine, les États-Unis, l'Inde et l'Israël. Quel était le manque d'intérêt de ces États à ratifier l'instauration de cette cour?
Mais c'est la peur d'être traduit un jour ou l'autre pour des exactions commises par eux devant la cour. Et notamment, les États-Unis, c'est ça qui est surprenant, se sont beaucoup battus pour ne... On s'attendait à ce qu'il y ait la rétroactivité, comme on dit en droit pénal. Car le principe de ces juridictions, ça a été très discuté à Nuremberg et ça a été la solution qui a été choisie. Quand les infractions violent vraiment la communauté universelle dans son ensemble, on a admis que l'on puisse soumettre à la compétence de ces juridictions particulières des faits commis avant leur entrée en vigueur. On s'était attendu à ce que ce soit le cas pour la Cour pénale internationale de La Haye. les Américains se sont battus contre la rétroactivité. Ils ont gagné, aux grandes dames de certains, et en bout de course, ils n'ont même pas ratifié. Parce que de toute façon, ils ont peur, si vous le voulez, de la juridiction de cette cour.
Mais alors,
en raison de certaines attitudes. Pour les Chinois, c'est la même chose. Israël, même chose. Israël, on a des gros... Israël, je vous l'ai dit tout à l'heure, a ratifié la convention d'extradition. On a des problèmes monstrueux d'extradition avec Israël.
Ça veut dire que les autres États n'avaient pas ces craintes.
Ont essayé au moins de les maîtriser. La France avait ses craintes, notamment pour les militaires français, casques bleus de l'ONU, qui parfois ont été mêlés à des affaires frôlant le crime de guerre, voire le crime de guerre tout court. Mais là, quand vous dites que je me suis montrée optimiste, je ne pense pas avoir été optimiste quand je vous ai décrit la Cour pénale internationale. Et même, je vais vous dire, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, moi, par moments, j'ai l'impression que c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Quand on voit les limites qui sont imparties à sa compétence. Donc, je corrige l'image que j'ai pu vous donner tout à l'heure. Oui, oui, quand je vous ai parlé notamment de la Cour pénale internationale. J'ai terminé par ça parce que c'est ce qu'il y a de plus neuf, si vous voulez. C'était inimaginable il y a encore 15-20 ans. On pensait que ça n'aboutirait jamais. Ça aboutit, c'est magnifique, c'est salué par tout le monde. Je vous dis, on se demande quand elle va entrer en vigueur. 60 ratifications, il n'y en a que 21 pour l'instant en presque 3 ans. Ça n'est pas grand-chose. Les réserves, les barrières, les 7 ans pour les crimes de guerre, moi je pense que ce n'est pas une si grande réussite que cela, même si c'est un progrès considérable du point de vue du droit.
Merci beaucoup. Dernière question tout en haut, monsieur.
Oui, bonsoir, madame. Une affaire récente qui concerne la France et le président actuellement en exercice. Le Conseil constitutionnel a dit que le président actuellement en exercice ne pouvait pas être jugé pendant l'exercice de son mandat. Si un président de la République française devait commettre des délits qui relèveraient du tribunal pénal international, est-ce que c'est le tribunal pénal international qui prévaut sur la Constitution française qui dit que le président est intouchable, ou est-ce que c'est l'inverse?
Non, c'est pour ça qu'on a modifié notre Constitution. Monsieur Chirac ou un successeur relèverait de la compétence de la Cour pénale internationale. Parce que justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, la qualité de chef d'État ou de chef de gouvernement n'est ni une excuse exonératoire, ni une excuse même atténuante.
Merci. Merci beaucoup.
Merci à vous.